écoutez Canal B et vous êtes dans cette heure curieuse qui accueille plusieurs émissions sur des sujets de société à chaque fois le vendredi à 13h. Il y a les héroïnes pour parler féminisme, fréquence follement curieuse sur la santé mentale. Et aujourd'hui, on inaugure un nouveau programme à l'assaut. C'est une carte blanche d'une heure qui est laissée à des associations et collectifs du territoire pour mettre en avant les voix de celles et ceux dont on n'a jamais eu autant besoin pour faire bouger les lignes et puis pour faire avancer les luttes. Et aujourd'hui, en studio, nous recevons le collectif féministe Nous Toutes 35, qu'on reçoit donc juste avant la traditionnelle journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Ce sera le 25 novembre. Au micro, juste devant moi, Louise, Val, Mélanie et Chloé. Bonjour à toutes les quatre.
Bonjour et merci de l'accueil.
Alors bonjour les féministes et bienvenue dans cette carte blanche, qu'on pourrait dire carte violette, qui nous a été laissée à l'antenne de Canal B. Aujourd'hui, c'est le collectif féministe Nous Toutes 35 Rennes qui vous accompagne et vous propose une émission haute en couleurs pour parler des combats et mobilisations auxquels notre collectif prend part. On va vous parler de trucs très drôles et moins drôles sur le 25 novembre, l'extrême droite, mais aussi les luttes qui nous inspirent.
Donc aujourd'hui, on est quatre autour de la table pour enregistrer notre première émission de radio féministe du collectif Nous Toutes 35 Rennes, donc Louise, Chloé, Val et Mélanie. On fait donc toutes les quatre parties du collectif Nous Toutes 35 Rennes qui existe depuis 2019. On mobilise largement et surtout dans la rue pour lutter collectivement contre le patriarcat et les discriminations sexistes. Globalement, on se mobilise pour les droits des femmes et des personnes LGBTQIA+. Alors on organise des projections, des auto-formations, de la sensibilisation, des collages, des actions et aussi des manifestations.
On se mobilise pour la libre disposition de nos corps, pour la culture du consentement, pour la reconnaissance de notre travail, qu'il soit salarié ou domestique. On se mobilise aussi contre la transphobie, le racisme et les frontières, contre les réformes antisociales. En fait, on se mobilise pour une société où être une femme, être perçue comme telle, et où être une personne LGBTQIA+, n'est pas un désavantage, voire un danger. On veut construire une société dans laquelle mener des vies dignes, libres et sans violence pour tous. Voilà le programme.
À l'échelle de Rennes, on s'organise avec plein d'autres collectifs, associations, partis et syndicats pour construire des mobilisations ensemble, les plus larges possibles au sein de l'interorganisation féministe de Rennes. Et à l'échelle nationale, on s'organise avec des dizaines d'autres collectifs féministes locaux et indépendants au sein d'un réseau qui s'appelle la coordination féministe. Parmi les grosses dates et mobilisations qui sont au cœur de nos luttes, il y a évidemment le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes et des minorités de genre, et puis il y a le 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Ça, c'est vraiment d'actu, car c'est la semaine prochaine. Au départ, c'est à cette date-là qu'avec Nous Toutes 35 Rennes, on a appelé à descendre dans la rue en 2019, contre les VSS, c'est le petit nom des violences sexistes et sexuelles. Et c'est par ça qu'on va commencer aujourd'hui. Je laisse le micro à Val pour nous parler du 25 novembre, des VSS et de comment en finir. C'est la première partie de notre carte violette. Allons-y.
Merci. Mais en fait, d'où ça vient le 25 novembre ? Vous ne pensiez quand même pas que c'est Caroline de Haas qui s'est réveillée un matin en 2018 et qui s'est dit « Oh, tiens, 25-11, ça sonne bien. En plus, c'est souvent une météo parfaite pour manifester. » Non, non, non. Contrairement à ce que certaines personnes supposent parfois, le 25 novembre, il n'est pas du tout arrivé avec hashtag nous toutes et tout ça. Et il n'est pas arrivé de France non plus. Il a déjà plusieurs décennies de lutte derrière lui, à travers le monde entier. Oui, oui, on parle bien d'une journée internationale. Et comme beaucoup de mobilisations et d'inspirations des luttes féministes, cette date, elle nous vient d'Amérique latine. Le 25 novembre, reconnu et proclamé comme journée internationale par l'ONU en 1999, en fait, elle n'a pas du tout été déterminée par des diplomates en costume, mais bien par des militantes féministes déjà en 1981. Les féministes d'Amérique centrale et du Sud ont tenu des rencontres internationales féministes et elles ont décidé ensemble de faire de cette date une mobilisation d'ampleur contre les violences sexistes et sexuelles, contre les féminicides, les viols, les disparitions, les inégalités de droit ou de fait, et on en passe. Mais pourquoi la date du 25 novembre ?
Mais oui, dis-nous pourquoi. On veut tout savoir. Éclaircis donc ce mystère pour nous. Oh oui, s'il te plaît, raconte-nous.
Mais bien sûr, avec plaisir, je vous dis tout. En fait, c'est la commémoration d'un triple féminicide qui a une histoire bien particulière. Allez, je vous emmène. On est en 1949 en République dominicaine. Gros stuff chez le dictateur de l'époque, Rafael Trujillo, pour se saucer lui-même. Oui bon, rien d'étonnant jusque-là. Pendant ce bal, il va faire des avances à Minerva Mirabal, qui clairement lui met un gros stop. Alors là, Raphaël Lincel, il n'est pas content du tout. Et vu qu'il a beaucoup, beaucoup de pouvoir, eh bien, il va en faire n'importe quoi. Quelle surprise. Alors évidemment, il insiste encore. Mais pas juste comme il dit « Allez, s'il te plaît, regarde, je t'offre des fleurs ». Non, non. Raph, il poursuit la famille de Minerva, qui doit déménager, il fait emprisonner son père et tout, hein. Bon, par contre, il s'est pas intéressé à la bonne famille, parce qu'en fait, Minerva, elle est pas solo. Elle a deux sœurs, Patria et Maria Teresa, et en fait, elles sont toutes les trois militantes antifascistes. Plot twist. Grâce au pouvoir des trois, bon, les vrais auront la ref, elle lance un mouvement contestataire antifasciste pour faire tomber la dictature. Le mouvement, c'est Anti-Trujillista. Désolé pour écorcher les noms espagnols. Les trois sœurs, surnommées les sœurs Mariposas, ça veut dire papillon, militantes féministes, antifascistes et révolutionnaires, combattent donc le régime en place depuis 1930. En janvier 1960, le régime de Trujillo, il arrête une centaine de membres de leur organisation, dont les trois sœurs, et les condamne à 50 prisons. Pendant leur détention, les sœurs, elles sont torturées. Là, je reprécise, on est 11 ans après le râteau au bal. Et le gars, il a pas lâché l'affaire, hein. Je dis ça, je dis rien. Elles sont finalement libérées un mois plus tard, et elles poursuivent leurs activités clandestines d'opposition au régime. Mais leurs maris respectifs, eux, ils sont toujours emprisonnés. On arrive au 25 novembre 1960. Ah, là, vous vous dites, enfin, on arrive à la date clé. Vous pensiez que j'allais juste raconter l'histoire, oublier de caler la date? Non, non, on y arrive. Le 25 novembre 1960, les trois sœurs Mirabal rendent visite à leur mari en prison. Sur le chemin du retour, leur véhicule est attaqué par les ministres dictatoriales. Après que leur voiture se soit pris des rafales de munitions, elles sont traînées hors de la voiture et assassinées à la machette sur ordre du dictateur. Cet assassinat soulève l'indignation de tout le pays. On y reconnaît de nombreuses dynamiques de pouvoir et l'acharnement d'un homme politique en toute puissance qui dispose du corps et de la vie des femmes et de ses opposants et opposantes politiques. Cette attaque sanglante, elle n'a pas arrêté le mouvement de libération. Ça l'a même presque accéléré parce que Trujillo, il va être assassiné le 30 mai 1961 dans sa voiture. Petite touche d'ironie. C'est donc la date de leur assassinat, le fameux 25 novembre, en mémoire de leur combat féministe et antifasciste qui est retenu par les militantes et militants en 1981. Ce triple féminicide, c'est pas une anecdote historique, c'est le fonctionnement normal d'un régime foncièrement patriarcal qui devient aussi meurtrier par son caractère fasciste. Mais on n'a pas besoin de vivre dans un régime fasciste ou de s'opposer à la politique menée dans un pays pour être discriminé et tué en raison de notre genre. Aujourd'hui, en 2024, les dictateurs et les dirigeants d'extrême droite continuent d'assassiner à grande échelle sur des critères racistes, sexistes, LGBT-phobes. Aujourd'hui, en 2024, les hommes s'octroient le droit de décision sur nos corps et nos vies, sur ce qu'on en fait, sur si on vit ou si on meurt. Aujourd'hui, encore, on doit se battre pour que les violences que les hommes nous infligent soient reconnues, et encore plus se battre pour qu'elles soient dénoncées et combattues. Ces insultes, ces discriminations, ces coups, ils nous maintiennent aussi bien à notre place pour que le monde tourne bien pareil, qu'il avantage et protège toujours les mêmes. Et à nous toutes 35, on pense donc que c'est en finissant avec les violences sexistes et sexuelles qu'on peut aussi transformer la société. C'est aussi ça qui a fait du 25 novembre la première mobilisation du collectif en 2019 à Rennes. D'abord, on constate que c'est pour tout le monde pareil. Ensuite, on constate que chacune, chacun, dans notre coin, ça bouge pas assez vite. Et après, on voit que d'autres ont tout bousculé en s'organisant collectivement. Et on se dit, pourquoi pas nous? Enfin, pas vraiment. On se dit plutôt, si pas nous, qui? Alors le mouvement principalement virtuel, hashtag MeToo en 2017, il a vraiment eu un élan et provoqué une nécessité pour plein de gens de sortir de l'isolement. Et c'est pour ça que des centaines de milliers de personnes sont descendues de la rue. Et nous, on pense vraiment que c'est ensemble qu'on va gagner. On pense vraiment que la perspective féministe, elle offre des horizons beaucoup plus dignes et beaucoup plus doux. Et on pense aussi qu'on doit se retrouver pour comprendre ensemble que les violences qu'on vit de manière isolée, elles sont toutes liées dans nos vies et dans celles des autres. Et c'est pour ça qu'on scande souvent une de toucher, tous concernés. C'est tous ensemble qu'il faut lutter, mais aussi c'est tous ensemble qu'on va gagner. Et les violences sexistes et sexuelles, elles sont omniprésentes, elles sont parfois fatales. Et c'est aussi pour ça qu'on fait les mobilisations du 25 novembre, une date centrale de notre agenda féministe à Rennes.
Merci Val pour ce voyage dans le temps et dans les luttes pour lancer cette émission. On se retrouve juste après une pause musicale pour parler des violences sexistes et sexuelles et comment en finir. On écoute tout de suite une goguette, c'est une réécriture de chansons connues. Pour aujourd'hui, ça sera Gimme 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 de ABBA, réécrite l'an dernier, en octobre 2023, au cours d'un atelier qu'on a animé avec les Rosie pendant le festival Dangereuses Lectrices. C'est une chanson qui dénonce l'omniprésence des VSS, mais aussi qui appelle à se serrer les coudes, s'organiser et riposter ensemble. Restez avec nous sur Canal B, tout de suite, pousse-toi.
Je me balade dans la rue et je me prends encore une remarque sur mon cul. Toujours trop, jamais bien comme il faut. Trop couvert, tout pas assez. Mon corps est injustement sexualisé. On me dit de fermer ma gueule.
Faites gaffe, je ne suis pas seule. On se croit et ensemble reprenons tous nos droits. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, c'est nous pour la ripe. Tu touches à une de nous, on te casse les genoux.
Comme dans une fraternité, engluée dans un système périmé. Impunité, ils font ouin ouin dans les médias pour sauver leur entre-soi. Patriarcat jusqu'au sommet de l'État. Police, justice, prison. Darmanin, démission. On prend la rue, on met en détresse les masculins. Pousse-toi, 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 c'est nous pour la riposte. Tout ensemble pour lutter, tous ensemble à gagner.
Pousse-toi, 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 c'est nous pour la riposte. Pousse-toi, 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 c'est nous pour la riposte. On me dit de fermer ma gueule.
Faites gaffe, je ne suis pas seule. Pousse-toi, 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 c'est nous pour la riposte. On prend la rue, on met en détresse les masculins. Pousse-toi, 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 c'est nous pour la riposte. Tout ensemble pour lutter, tous ensemble à gagner. Pousse-toi, 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 c'est nous. La riposte, on prend la rue, on met en détresse les masculins. Pousse-toi, 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 c'est nous pour la riposte. Tous ensemble pour lutter, tous ensemble à gagner.
Hello les féministes, vous êtes toujours avec nous tous 35 reines sur les ondes. Merci de nous écouter dans cette carte violette que nous laisse Canal B sur À l'assaut. On est toujours 4 féministes enragées autour de la table et on enchaîne tout de suite avec une chronique sur les violences sexistes et sexuelles, aussi dites VSS. Mais alors Louise, dis-nous en plus, qu'est-ce qu'on entend par VSS ?
Les violences sexistes et sexuelles, c'est un terme très large qui regroupe toutes les violences subies en raison du genre de la victime. C'est des violences qui sont vraiment diverses et qui ont vraiment des degrés différents, mais qui sont partout, tout le temps, et qui sont toutes liées. Ça va du rabaissement à l'insulte, à l'agression, au viol, au meurtre. Donc oui, quand on dénonce les féminicides, on se bat aussi pour que les enfants apprennent qu'elles ont le droit de refuser qu'on leur touche les cheveux à la récré. Attendez, je répète. Bah en fait, les violences sexistes et sexuelles, on connaît et on commence à reconnaître leur apogée, c'est-à-dire les féminicides, les viols. Mais ça commence par des situations qui peuvent paraître triviales, innocentes presque. Par exemple, dire aux jeunes enfants que s'ils te tapent, c'est parce qu'ils t'aiment bien, devoir se coltiner les remarques de Didier sur le décolleté de la présentatrice télé aux 20h de la veille, à la pause d'une réunion, ça vous dit quelque chose ? Attendez, j'en ai d'autres. Devoir baisser la tête quand dans ta classe, les autres élèves lancent des insultes de dégoût et de mépris devant un film où deux femmes s'aiment, parce que si tu réagis, c'est plus l'écran, mais toi qui recevras leur haine. Te retrouver à faire la vaisselle à tous les repas pendant que ton frère et ton père discutent à table, et quand ton père, de sa grande bonté, lave une casserole, il fanfaronne pendant une semaine, alors même qu'il laisse du riz au fond et que ta mère repasse derrière. Obliger des enfants à faire la bise à des adultes aussi. Là, ça vous parle ? Non, parce qu'en fait, j'en ai vraiment plein d'autres. Entendre à tout va, on a besoin des garçons forts et musclés pour déplacer des tables. Être face à un pote qui te demande comment t'étais habillée le jour où on t'a crié salope depuis une voiture quand tu rentrais du resto. Ou alors constater qu'on reconnaît tout juste l'endométriose alors que ça fait plus de 20 ans que le Viagra est remboursé. Là, je pense que ça commence à sauter aux yeux. Sauter à la gorge même. Ces faits-là, comme on le disait, ils sont liés. Pas seulement liés parce que tous sexistes ou parce qu'ils nous arrivent à tous, mais aussi liés parce que l'un implique les autres, permet les autres et encourage les autres. C'est un peu comme les levels d'un jeu vidéo. Tu sais, tu commences au niveau 1 et tu débloques étape par étape, et à chaque niveau, les niveaux d'en dessous deviennent toujours plus acceptables. Pourquoi près de 200 hommes tuent des femmes parce qu'ils ont le pouvoir de le faire chaque année en France et tout le monde se tait ? Donc même si les meurtres sont de simples faits divers, alors évidemment que personne ne s'indigne quand les garçons soulèvent les jupes des filles dans les cours d'école. En fait, il faut retourner le tableau. Ces violences, elles sont normales dans la société, mais c'est les normes qui sont à côté de la plaque. Ces normes sont donc inculquées et reproduites par le plus grand nombre. On nous apprend depuis toujours ce qui est bien et mal, et comme ça, on intègre l'idée que ces violences ne sont finalement pas si graves, voire drôles. Mais nous, en fait, on a fini de rigoler, parce que les violences sont partout. Et les VSS, c'est pas l'apanage des monstres, mais bien des hommes de nos entourages, de notre travail, de nos groupes préférés, de notre gouvernement. Oh mais pas tous les hommes quand même. Vraiment ? Pas tous les hommes, mais Gérard Depardieu. Pas tous les hommes, mais Denis Baupin. Pas tous les hommes, mais Gérald Darmanin. Pas tous les hommes, mais Norman Tavo. Pas tous les hommes, mais ton prof de piano par exemple. Pas tous les hommes, mais le patron de ta cousine. Pas tous les hommes, mais ton pote de lycée. Pas tous les hommes, mais Seb Melia. Pas tous les hommes, mais Roman Polanski. Pas tous les hommes, mais L'Homme Pâle. Pas tous les hommes, mais Luc Besson. Pas tous les hommes, mais Niska. Pas tous les hommes, mais l'abbé Pierre. Pas tous les hommes, mais toujours des hommes. Pas tous les hommes, mais n'importe quel homme. Pas tous les hommes, mais beaucoup d'hommes. Peut-être un peu tous les hommes, en fait. Tous les hommes, mais pas parce qu'ils sont des abominations. C'est parce que le système patriarcal leur autorise et les encourage à disposer de nous comme bon leur semble. Ils n'ont pas besoin d'être célèbres ou gouvernants pour être influents et contrôler nos vies. C'est aussi nos conjoints violents qui ont une emprise psychologique ou financière qui nous empêchent de quitter le foyer. C'est aussi nos patrons qui nous refusent des postes ou des augmentations si on refuse des avances sexuelles, ou juste parce qu'on est une femme ou une personne LGBTQIA+. C'est aussi les médecins qui ignorent et minimisent nos symptômes parce que la recherche ne prend pas en compte nos spécificités en tant que femme ou personne racisée ou LGBTQIA+. Le système fonctionne pour nous faire comprendre que ce sont les hommes qui décident de nos vies, de ce qu'on fait avec nos corps. Ils sont qui pour décider pour nous ? Depuis la réélection de Donald Trump aux États-Unis, on voit beaucoup d'hommes dire « ton corps, mon choix ». Ils reprennent un slogan qu'on utilise en manif et sur nos visuels, « Mon corps, mon choix », pour se le réapproprier et pour bien nous faire comprendre qu'ils se battront activement contre nous, pour reprendre des droits déjà acquis et nous empêcher d'en acquérir de nouveaux. Et ils imaginent qu'on va se laisser faire, franchement ? Depuis longtemps, déjà, les hommes essayent de nous faire taire, de nous soumettre à leur volonté. Mais il y a aussi toujours eu des réponses, des femmes qui résistent et qui luttent ensemble. On vous donnera un exemple bien local tout à l'heure. C'est cette volonté de nous dominer, de choisir à notre place que nous combattons. Nous souhaitons pour tous la liberté de faire ce qu'on veut de nos corps et nos vies. Que ce soit l'accès à l'IVG, l'accès à des soins médicaux de qualité, la possibilité de faire des transitions pour les personnes trans, l'accès à l'emploi, au logement, etc. C'est-à-dire mener des vies dignes, libres et sans violence. Nous y avons droit et peu importe notre genre. On ne se laissera clairement pas faire. Avec nous toutes 35, pour en finir avec ces violences, nous pensons que nous devons changer le système et donc mettre fin au patriarcat. C'est pour ça qu'on s'organise. Notre force, c'est le nombre, c'est le collectif. Ce n'est qu'en se battant ensemble qu'on arrivera à faire changer les choses. Et c'est pour ça qu'on vous invite à nous rejoindre en manifestation samedi 23 novembre à 14h, place Charles de Gaulle, puis le lundi 25 novembre à partir de 16h à République pour un village féministe suivi d'une marche au flambeau dès 18h.
Maintenant, on a compris que les violences sont partout et intégrées dans notre société. Et surtout, l'organisation sociale repose dessus. Et puis, on a bien compris aussi que les violences sont banalisées et encouragées. Et même, elles sont quand même accélérées par certains ou certaines, plus que par d'autres. On a nommé les réactionnaires de droite et d'extrême droite. Trophées de pourriture antiféministe. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi la lutte contre l'extrême droite fait partie de nos combats et se trouve même être une de nos priorités actuellement au sein de Nous Toutes 35 ? Eh bien, spoiler, parce que l'extrême droite, contrairement à ce qu'elle veut nous faire croire, ne sera jamais, 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 jamais du côté des femmes et des minorités. On peut analyser l'impact de l'extrême droite à différentes échelles et à travers différents prismes. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, sans prétention, c'est de faire le point sur ce que l'extrême droite fait à nos vies, mais aussi ce qu'elle fait à nos luttes. On vous en dit un peu plus après cette petite pause musicale de qualité. On écoute tout de suite un son d'Elaïs, artiste féministe et antiraciste de Rennes, avec une plume poétique et incisive. Elaïs sort d'ailleurs son EP dès demain, le 23 novembre, lors de sa release party au bâtiment à modeler, le BAM à Clenay, à partir de 19h. En bref, une super soirée post-manif. On espère vous y retrouver dans les cortèges et sur le dance floor. Pour vous mettre l'eau à la bouche, tout de suite sur Canal B, Cœur lourd d'Elaïs. A tout de suite.
On s'exprime, on s'exclame, on s'exclave, on s'extasie devant la beauté de notre indignité. Tout piller, tout détruire, on finit même par en rire. Mais le ridicule ne tue pas, non, les coupables n'en meurent pas, non, mais tu, victime après victime, pour conquérir les territoires, même les plus infimes. Comme Lyon qui dans sa cage tourne en rond. Des questions par millions. Pourquoi moi j'ai un toit à la rue? Pourquoi toi? De quel droit jette-t-il des bombes sur ton toit? Politiciens ne supportant pas que soutien existe entre toi et moi, surtout si tu viens de loin. Stigmature demandeur d'asile, psychotique deviendra sa destinée, tellement l'institution l'a violentée et la thune se hisse à nos frontières. Pour que surtout chacun reste chez soi.
Si seulement on pouvait tout arrêter. Comme un corps retrouvé inanimé, j'ai le cœur lourd, appelant l'amour, que leur violente haine ne cesse de piétiner.
Mauvais enfants de la patrie, pas entendus et pas compris, des colons et des tyrans votant les lois, interdisant de passer frontières et doigts, être le pays des droits de l'homme, ouais. Ça dédouane. Prenant
l'égalité. N'oubliez pas la liberté, aussi peu existante que la robe de Marianne, sauvant le pays sans nu, femme à jamais sexualisée, pour surtout ne pas toucher à leur sainte fraternité.
Quand on est étranger en France, c'est la question de se sentir légitime, entre guillemets, d'exister, quoi. Moi, ça fait presque 14 ans que je suis là et pendant une dizaine d'années, j'ai dû renouveler tous les ans mon titre de séjour. Toutes les élections où il y a eu le FN qui était assez fort, bah, en fait, tu te dis, tu lis leur programme et tu te dis, putain, mais genre, je suis le premier à dégager, quoi. Tout le temps en danger quand je jette, quoi, dehors, quoi. Et pour aller où, en fait, parce que je retourne au Chili, mais c'est plus chez moi en fait, c'est ici, c'est chez moi. Je trouve dans un an, je pourrais plus justifier mon existence, donc j'existerai plus, tu vois. Les gens blancs ou à côté, ils comprenaient pas trop l'ampleur du truc, ou ils comprenaient pas trop qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça entraîne pour toutes les personnes qui sont issues des minorités en fait, tu vois. Et aussi un truc d'incompréhension, quoi, de pourquoi on en est encore là en 2024. Je pense que j'ai plus peur maintenant qu'avant. Parce que je sais qu'il y a des gens qui nous détestent. Du coup, le danger est plus présent et il est plus vocal aussi. Enfin, alors maintenant, les racistes, ils se cachent plus, quoi. Tu vis avec cette peur tous les jours, donc en fait, tu peux pas la cacher, tu vas pas l'enfuir, ça fait mal. Enfin, je me suis dit, en fait, le silence n'est pas une option, genre, non.
Musique, culture,
information.
Restez curieux
avec Canal B.
Vous êtes toujours avec nous toutes 35 Rennes sur les ondes. Merci de nous écouter dans cette carte violette que nous laisse Canal B dans À l'assaut. On est toujours quatre féministes enragées autour de la table et on enchaîne tout de suite avec une chronique sur l'extrême droite. C'est Mélanie qui nous a concocté une analyse féministe des dangers que représente l'extrême droite.
Alors j'attaque la partie pas très fun de cette carte violette, mais il nous semble hyper important de rappeler que l'idéologie d'extrême droite est non seulement incompatible avec les valeurs féministes, mais en plus elle cherche à nous atteindre et à nous soumettre. Donc, je vais pas vous faire une liste exhaustive parce que ça serait super long et très anxiogène, mais je vais essayer de résumer un peu les grandes lignes. Donc il faut savoir que l'extrême droite a un impact direct sur nos vies, hein, elle s'attaque à nos droits et à nos libertés. Déjà parce qu'elle défend une société patriarcale, dont le socle est la famille nucléaire, blanche, hétérosexuelle. Donc on comprend bien que ça laisse pas trop de place aux femmes, aux personnes LGBTQIA+, aux personnes racisées, etc. Ni à leur émancipation. Pour ça, elle s'attaque à la libre disposition de nos corps. Et d'ailleurs, la première chose qui est systématiquement attaquée quand l'extrême droite arrive au pouvoir, c'est le droit à l'avortement. On sait ce qui s'est passé aux États-Unis, en Hongrie, et il y a probablement encore d'autres exemples. Et on sait que la mortalité qui en découle est monstrueuse, parce qu'une personne qui veut avorter, elle avortera, mais dans des conditions déplorables. Donc ce qui est présenté comme un positionnement pro-vie, et là je fais, vous ne voyez pas, mais je fais des gros guillemets avec mes doigts, est en réalité profondément mortifère. En prenant un modèle familial traditionnel, elle s'en prend de manière plus globale en fait à tous nos droits reproductifs, à l'IVG certes, mais aussi à la contraception, à la PMA, à la GPA. Elle s'en prend aussi aux droits des personnes LGBTQIA+. On pense à la loi contre la transition, pour les thérapies de conversion, la restriction d'accès à la PMA, les défenses des mutilations des enfants intersexes, l'interdiction des performances et des drag shows, d'œuvres artistiques et culturelles autour ou mentionnant les identités queer. Bon, là je pense qu'on a à peu près compris. En fait, c'est comme maintenant, mais en pire. Avec l'extrême droite, les droits des personnes trans sont rapidement et explicitement menacés. Et comme pour l'IVG, ce sont les premiers qu'elle supprime quand elle arrive au pouvoir. Et c'est ce qu'on a pu constater en Italie. Quand Giorgia Meloni est arrivée au pouvoir, il y a une circulaire gouvernementale qui est passée quasiment aussitôt pour supprimer le nom des mères lesbiennes dites non biologiques, c'est-à-dire celles qui n'ont pas avorté l'enfant, sur le livret de famille. Elles perdent donc tous leurs droits parentaux, entre autres évidemment. L'extrême droite aussi, elle a cette manie de hiérarchiser les personnes et les vies, et elle module donc l'accès des droits fondamentaux, selon les origines, les religions et le genre, en invoquant leur sacro-sainte préférence nationale. Et on sait bien qu'en retirant ces droits aux minorités, eh bien, ce sont leurs vies qui sont mises en jeu. Elle supprime aussi les subventions publiques, les services publics sont donc sacrifiés, encore plus que ça ne l'est déjà. Et elle supprime également les subventions pour les assos qui défendent les droits humains. Et on pense tout particulièrement au planning familial, mais aussi à la CIMED, à Médecins du Monde. Enfin, je pense que vous avez l'idée là. L'autre lubie d'extrême droite, c'est de renforcer l'État policier et un système basé sur la répression, mais surtout en étant bien vigilante à respecter un nauséabond double standard, c'est-à-dire en choisissant bien les cibles de ces systèmes, à savoir les hommes arabes, noirs, musulmans, enfin, étrangers non blancs de manière générale, de préférence, et en invisibilisant ou en minimisant les violences perpétrées par leurs propres militants, mais aussi de manière plus générale par les hommes blancs, cisgenres, hétéros. Dans ce cadre-là, elle tolère également une occupation violente de l'espace public, le déchaînement de haine dans les rues, la banalisation et l'autorisation des milices et de leur violence à l'encontre des minorités ethniques, religieuses, des minorités de genre. Et on pense aux USA, avec le Ku Klux Klan qui se reforme, et franchement, ça se passe plutôt bien pour eux, hein. La répression est très faible, voilà, ils sont plutôt à l'aise dans leur rôle. Maintenant que je vous ai présenté tout ce que l'extrême droite va faire à nos libertés individuelles, je vais développer un peu ce que l'extrême droite fait aussi à nos luttes. En premier lieu, l'extrême droite se réapproprie et instrumentalise nos luttes féministes à des fins racistes. L'objectif, c'est de dédiaboliser leur idéologie et de justifier leur agenda discriminatoire sous couvert de défendre le droit des femmes. Mais attention, pas n'importe quelle femme, uniquement les femmes françaises, blanches, valides, hétéros. Leur raisonnement dit « féministe » repose toujours, toujours sur le même postulat de base. C'est l'étranger, arabe, noir, musulman, qui viole les femmes françaises et qui est responsable de l'insécurité en France. Une des illustrations les plus récentes de ce raisonnement est l'histoire de Philippine, cette jeune étudiante blanche, c'est un détail qui a son importance, de 19 ans, qui a été assassinée en septembre 2024 par un homme racisé et sous le coup d'une OQTF. L'extrême droite s'est littéralement déchaînée sur cette histoire pour alimenter leur politique xénophobe et répressive. Par contre, à ce jour, Nous Toutes Org a décompté 117 féminicides en France depuis le 1er janvier 2024 et on ne les a pas du tout entendus s'exprimer à leurs propos. Et de la même manière, on n'entend pas du tout leur analyse concernant le procès dit des viols de Mazan. Silence radio. Les têtes d'affiche du RN prennent la parole sur les droits des femmes. Mais à l'échelle plus locale, il y a aussi des groupes identitaires dits féministes, là encore je mime des guillemets évidemment, qui s'emparent également du sujet. On pense notamment au groupuscule identitaire Némésis, qui est présent un peu partout en France et qui est de retour à Rennes. C'est un collectif qui a pignon sur rue et qui se met en scène en adoptant les stratégies de lutte de nos sphères, à savoir le tractage, les collages d'affiches, de stickers un peu partout dans la ville, mais en s'attaquant exclusivement aux hommes racisés, et en diffusant ça sur leurs réseaux sociaux. En réalité, la dénonciation des VSS, choisie scrupuleusement, hein, bien sûr, par l'extrême droite, n'est qu'un prétexte pour alimenter la peur de l'autre et fédérer autour de la question de l'immigration. L'extrême droite s'affaire aussi à décrédibiliser et invisibiliser nos luttes et nos revendications via un traitement médiatique loin d'être neutre. Et là, clairement, ce sont des individus qui tiennent les rênes. On pense bien entendu à Bolloré en France, mais également à Elon Musk aux USA qui injecte des millions de dollars pour libérer une parole haineuse et faire de la désinformation. Les influenceuses et les influenceurs aussi ont leur rôle à jouer, comme Thaïs Descuffon, Alice Cordier, Jordan Bardella. Ils ont un rôle fondamental en fait en donnant une image de fascisme un peu cool sur leur TikTok et leur Instagram. Les médias, sous la coupe de l'extrême droite, sont des vraies machines de propagande. Il faut savoir que le souhait de l'extrême droite, c'est la privatisation des médias, ce qui veut dire plus de pluralisme dans la presse, pas de contrôle de l'indépendance des journalistes, de la censure et surtout plus de contre-pouvoir médiatique. Tout le champ médiatique, en fait, se décale tranquillement à l'extrême droite. Les médias possédés par Bolloré lancent des sujets et se répondent les uns aux autres à l'aide de stratégies bien rodées et déplacent les débats à leur guise. Et on sait bien que tout ça aboutit à un appauvrissement de la réflexion, car il n'y a plus de sujet de débat. Et l'objectif est bien sûr la diminution de l'esprit critique. Ce processus, il est encore visible en Italie, mais par contre, il n'est plus du tout visible en Hongrie, parce qu'en fait, il n'y a plus du tout d'opposition possible dans les médias publics, c'est fini. Il y a un seul point de vue. Et des concepts racistes, homophobes, illégaux, de manière générale, deviennent de simples points de vue, et l'idéologie réactionnaire s'impose dans le débat public. Et forcément, ça aboutit à une invisibilisation des luttes sociales, féministes, des initiatives citoyennes et militantes. Comme le dit si bien un de nos slogans préférés, le fascisme, c'est la gangrène.
On l'élimine ou on en crève.
Je voulais aussi rappeler que se battre pour le droit des minorités finit toujours par avoir un impact positif sur le droit de toutes et tous. Et maintenant, avant de rendre le micro à ma camarade, je voulais recommander chaudement le livre de Salomé Sacquet, Résister, qui a été publié il y a quelques semaines aux éditions Payot. Il s'agit d'un livre assez court, qui se lit vraiment très facilement, qui est très accessible en termes de lecture, en termes d'appréhension des concepts et des idées. Il n'y a vraiment pas besoin d'être militant ou d'avoir une forte culture politique pour le comprendre. Et en fait, elle articule trois parties de manière hyper fluide. La première partie fait un peu un état des lieux de la situation politique actuelle avec le RN qui est aux portes du pouvoir. Et elle explique brièvement, mais très efficacement, quelles seraient les conséquences si l'extrême droite nous gouvernait. Dans la deuxième partie, elle explique comment ces idées foncièrement violentes ont réussi à prendre autant de place dans le débat public et dans l'esprit des Françaises et des Français jusqu'à rendre ces idées acceptables. Elle explique super bien les batailles numériques, sémantiques, médiatiques que le RN mène et comment et pourquoi on a l'impression qu'ils sont en passe de les gagner. Spoiler, une sombre histoire d'argent, bien sûr. Et dans la dernière partie, elle nous enjoint à résister. Car la situation actuelle est hyper anxiogène, on fait toutes et tous comme on peut pour la gérer. Mais elle rappelle bien que le meilleur remède à l'angoisse, c'est l'action et la mobilisation collective. Elle propose des pistes de réflexion très pratiques, mais sans en faire de mode d'emploi à suivre non plus. Bref, c'est un livre percutant et pas cher du tout, il est à 5 euros, et on recommande, surtout si vous sentez un peu perdu ou paralysé par la situation actuelle.
Merci beaucoup Mélanie pour ce tour d'horizon de l'extrême droite un peu partout dans le monde, qui fait peut-être un peu froid dans le dos, mais qui nous rappelle aussi à quel point il est nécessaire de se mobiliser, puisque face aux attaques antiféministes de l'extrême droite, face à la récupération raciste et homophobe de nos luttes, seule la construction de collectifs et la mobilisation peuvent fonctionner. Notre collectif, Nous Toutes 35 à Rennes, il s'est organisé et il se mobilisera encore et toujours. La coordination féministe, le réseau dont on fait partie à l'échelle nationale, il appelle d'ailleurs à des rassemblements dans toute la France le 25 janvier prochain pour une grève féministe pour battre l'extrême droite. Et pour ne pas oublier que seule la lutte paie, pour se convaincre, se motiver, nous allons aussi vous raconter comment des ouvrières finistériennes, donc pas très loin de chez nous, plus précisément des sardinières de Douarnenez, ont réussi à aller au bout de leur lutte il y a exactement 100 ans. C'est la grève des peines sardines en 1924 dont nous fêtons le siècle cette année. On en parle juste après une pause musicale en écoutant Claude Michel, une autrice, compositrice, interprète et militante féministe qui, certes, n'a pas connu la grève, mais leur a dédié une chanson, interprétée ici par la chorale de notre collectif, qui l'a un petit peu mise à jour en y ajoutant des couplets et un refrain en lien avec nos luttes actuelles.
Il fait encore nuit, elles sortent et frissonnent. Le bruit de leurs pas dans la rue résonne.
Il fait encore nuit, elles sortent et frissonnent. Le bruit de leurs pas dans la rue résonne. Écoutez le bruit de leurs sabots. Voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots. Voilà qu'arrivent les peines sardines.
À 10 ou 12 ans sont encore gamines, mais déjà pourtant elles entrent à l'usine.
À 10 ou 12 ans sont encore gamines, mais déjà pourtant elles entrent à l'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Du matin au soir nettoient les sardines, et puis les font frire dans de grandes bassines.
Du matin au soir nettoient les sardines, et puis les font frire dans de grandes bassines. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Tant qu'il y a du poisson, il faut bien s'y faire. Il faut travailler, il n'y a pas d'horaire.
Tant qu'il y a du poisson, il faut bien s'y faire. Il faut travailler, il n'y a pas d'horaire. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
À bout de fatigue pour pas s'endormir, elles chantent en chœur, il faut bien tenir.
À bout de fatigue pour pas s'endormir, elles chantent en chœur, il faut bien tenir. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots,
voilà qu'arrivent les peines sardines.
Malgré leur travail, n'ont guère de salaire, et bien trop souvent vivent dans la misère.
Malgré leur travail, n'ont guère de salaire, et bien trop souvent vivent dans la misère. Écoutez, bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Tout ensemble, ces femmes se lèvent. Plusieurs milliers se mettent en grève.
Un tout ensemble, ces femmes se lèvent. Plusieurs milliers se mettent en grève. Écoutez, bruit leurs sabots. Écoutez, gronder leur colère. Écoutez, bruit leurs sabots. C'est la grève des sardinières.
Après 6 semaines, toutes les sardinières ont gagné respect et meilleur salaire.
Après 6 semaines, toutes les sardinières ont gagné respect et meilleur salaire. Écoutez, bruit de leurs sabots, écoutez, gronder leur colère. Écoutez, bruit de leurs sabots, c'est la grève des sardinières.
Dans la ville rouge, on est solidaires, et de leur victoire, les femmes sont fières.
Dans la ville rouge, on est solidaires, et de leur victoire, les femmes sont fières. Écoutez, bruit de leurs sabots, écoutez, gronder leur colère. Écoutez, bruit de leurs sabots, c'est la grève des sardinières.
La Douarnenez est depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant.
À Douarnenez est depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant. Écoutez, bruit de leurs sabots, écoutez, gronder leur colère. Écoutez, bruit de leurs sabots, c'est la victoire des sardinières.
100 ans après cette lutte féminine, nous portons l'héritage des peines sardines.
100 ans après cette lutte féminine, nous portons l'héritage des peines sardines. Écoutez, bruit de la manif, c'est la force du collectif. Écoutez, bruit de la manif, grève générale, grève féministe.
En prenant exemple sur les sardinières, construisons un monde juste et solidaire.
En prenant exemple sur les sardinières, construisons un monde juste et solidaire. Écoutez, bruit de la manif, c'est la force du collectif. Écoutez, bruit de la manif, grève générale, grève féministe.
À coups de sabots et avec fracas, nous éclaterons le patriarcat.
À coups de sabots et avec fracas, nous éclaterons le patriarcat. Écoutez, bruit de la manif, c'est la force du collectif. Écoutez, bruit de la manif, grève générale, grève féministe.
Et salut les féministes, vous êtes toujours bien sur Canal B, accompagnés aujourd'hui de Nous Toutes 35. Rennes, nous sommes le collectif féministe et nous avons le plaisir d'avoir une carte violette dans l'émission À l'assaut. Nous venons d'écouter la chanson de Claude Michel, la chanson des sardinières qui retrace la grève des peines sardines à laquelle nous avons ajouté quelques couplets pour fêter le centenaire. Nous sommes toujours 4 féministes enragées autour de la table et pour la dernière partie de notre émission, c'est Chloé qui nous fait voyager à travers les luttes, celles qui nous ont marquées, celles qui nous ont inspirées et qui, à chaque fois qu'on sort battre le pavé, nous rappellent que seule la lutte paie. Et en plus, effectivement, on a un anniversaire à fêter.
Merci Val. On connaît la lutte que les féministes ont réalisée pour arracher le droit de vote, celui d'être éligible, sans oublier l'indépendance financière ou encore le divorce, et bien entendu l'avortement. On connaît les grandes grèves victorieuses de 1995 contre la réforme des retraites, mais on connaît moins la grève historique des peines sardines de Douarnenez. Il faut savoir que peines sardines signifie tête de sardine en breton et désigne à la fois les habitants de Douarnenez, la coiffe que les femmes portent dans la rue, mais aussi la coiffe que les sardinières portent à l'usine. Nous sommes en 1924 à Douarnenez, premier port sardinier de France depuis 1850. Dans les usines, les peines sardines trient, font frire et emboîtent des sardines. Vous pouvez l'imaginer, leurs conditions de vie et de travail sont difficiles. À 10 ou 12 ans, comme le disait la chanson de Claude Michel, les filles font déjà leur entrée à l'usine où elles aident leur mère. Les femmes sont debout en permanence, elles travaillent dans la boue avec l'odeur des viscères et des sardines frites. Elles travaillent souvent de nuit, au rythme des arrivées de sardines que leur mari pêche. Il leur arrive de travailler plus de 70 heures d'affilée quand la pêche est bonne. Mais pour se donner du courage entre usines, elle chante. Ce sont des ouvrières reconnues à travers la France pour leur travail, mais malgré cela, elles ne gagnent que 7 francs par jour. Et pour comprendre leur misère, à l'époque, il faut savoir que 1 kg de beurre coûte 15 francs et 1 kg de café, 17 francs. Dans ces conditions, les sardinières n'en sont pas à leur première bataille. Et d'ailleurs, elles ont déjà arraché des droits 20 ans plus tôt par l'historique grève de 1905. À l'époque, les ouvrières revendiquaient d'être payées à l'heure et non aux 1000, c'est-à-dire à toutes les 1000 sardines, qui est en fait un racontage assez grossier qui favorisait les capitalistes. Malgré leur victoire, pas grand-chose a changé et ce sont toujours les patrons qui continuent à s'enrichir sur le dos des sardinières. Le 21 novembre 1924, dans l'usine Carnot, dont le patron est un grand capitaliste poids lourd de la sardine sur toute la côte, les ouvrières demandent à rencontrer le contremaître pour réclamer une augmentation du salaire horaire de 20 centimes. Il refuse de les recevoir tout simplement. Ce mépris est l'offense de trop. Les employés débrayent immédiatement. 100 ouvrières et 40 manœuvres quittent les ateliers. C'est la grève! Puis les ouvrières s'activent et se répartissent par petits groupes pour aller convaincre les autres usines de la ville. La grève doit prendre partout. Elles font aussi appel à un allié qu'elles espèrent influent, c'est Daniel Leflanchec, le maire de Douarnenez à l'époque. Il vient d'être élu sous l'étiquette communiste. Elles réussissent aussi à convaincre les hommes de rejoindre leur grève. Le 25 novembre, toutes les usines de Douarnenez débrayent. Il y a 3000 personnes, dont 2000 grévistes. On compte 500 ouvriers et surtout 1566 ouvrières. Les peines sardines réclament 1,25 franc de l'heure. Pemprez à la veau, on veut 25 sous. À partir de là, les soutiens arrivent en renfort. D'abord, c'est Charles Tillon qui débarque de Rennes. Il est le responsable de la CGTU Bretagne, c'est la Confédération Générale du Travail Unitaire, une branche communiste de la CGT. Il y a ensuite Lucie Colliard, qui est la responsable du travail des femmes à la CGTU. Les ouvrières sont impatientes de commencer à négocier, mais elles se heurtent au refus très net des patrons, notamment de René Béziers, qui possède 11 usines de sardines sur la côte, et d'autres un peu partout en France et à l'étranger. Les patrons misent clairement sur l'usure et l'épuisement des ouvrières. Le 4 décembre, jusque-là, malgré la grève généralisée à Douarnenez, les usines continuent à faire du chiffre et des affaires en convoyant jusqu'à la gare les réserves en stock pour être vendues. Mais ce matin-là, une cinquantaine de femmes très remontées barrent le passage des convois. En fin de matinée, ce sont plus 50 femmes, mais une foule qui hurle de respecter la grève. La foule réussit à faire retourner à l'usine les voituriers. René Béziers, le propriétaire de l'usine, est en rage et porte plainte auprès du maire Leflanchec qui soutient la grève et qui ne réagit pas. La couverture médiatique dans la presse locale et nationale commence à mettre la pression en dehors de Douarnenez. L'inquiétude monte jusqu'à Paris. La grève est à l'ordre du jour du Conseil des ministres. Le gouvernement a peur d'une soi-disant contamination communiste. Les ministres aimeraient vraiment que cette histoire se règle rapidement, et ils le font savoir du côté des officiels bretons. Mais les patrons ne flanchent pas. Le 16 décembre, c'est un tournant dans les négociations. Justin Godart, alors ministre du Travail, s'empare de l'affaire. Il se positionne en faveur des ouvrières et compte recevoir les deux délégations à Paris au ministère. La « médiation », avec des guillemets, ne se fait pas en face à face. Il n'y a pas de confrontation directe entre les deux parties. D'un côté, dans la pièce, les trois grévistes et leur soutien, et de l'autre, dans une autre pièce, les patrons, dont René Béziers. Malheureusement, les négociations entreprises par le ministre ne mènent à rien. Malgré l'échec des négociations, les sardinières n'ont qu'une hâte chaque jour, se réunir et aller manifester. De leur côté, les patrons restent à Paris afin de faire appel aux briseurs de grève. À Noël 1924, la solidarité entre ouvriers et ouvrières perdure. Le 25 décembre, les marins partent en mer pour la pêche. Non pas pour les usines, mais pour nourrir la grève. En parallèle, Charles Tillon et Lucie Colliard, les deux cégétistes, vont de port en port et de champ en champ pour récolter des dons qui affluent de la part des paysans et des commerçants des alentours. Les cantines solidaires se multiplient au point de réussir à distribuer 500 repas midi et soir. Et la solidarité dépasse en effet la localité. Le maire, Le Flanchec, revient fanfaronnant du meeting du Parti communiste avec 7500 francs pour la grève. Un bal solidaire est même organisé pour les sardinières à Paris, à la Bellevilloise, qui existe encore, et récolte plus de 3000 francs. Et le Parlement vote même une subvention qui permet qu'entre Noël et le Nouvel An, les grévistes reçoivent une cargaison de vêtements. Le 1er janvier 1925, le maire de Douarnenez, Le Flanchec, a rendez-vous au bar avec son neveu et des amis. Dans le même bar, quatre hommes de main achetés par les patrons sont au comptoir. Le Flanchec se met à chanter l'Internationale. C'est alors qu'un des hommes de main sort un revolver et tire sur le maire, qui s'effondre. Le rapport de police qui suit l'incident et les articles de presse accablent les briseurs de grève. L'après-midi, dans les rues de Douarnenez, la lutte reprend. Les 3000 grévistes défilent cette fois pas uniquement pour réclamer de l'argent, mais aussi pour réclamer justice. Le 3 janvier, pour faire diversion et étouffer l'affaire, les patrons annoncent enfin, l'ouverture des négociations avec les ouvrières. Le 5 janvier, les patrons sont pieds et mains liés. Face à la médiatisation de la grève, mais aussi face aux preuves accablantes de leur responsabilité dans l'attaque sanglante du 1er janvier, ils cèdent, revendication par revendication. Loi de 8 heures, appliquée. Paiement des heures d'attente du poisson, appliquée. Majoration du travail de nuit, appliquée. Majoration des heures supplémentaires, appliquée. Tout est signé. Au 47e jour de grève, les ouvrières ont gagné. Les négociations ont même permis d'obtenir un jour de congé avant la reprise du travail. Une dernière et massive manifestation déferle sur Douarnenez. La procession dynamique et enthousiaste laisse alors résonner des « Vive la grève !» partout dans la ville. Elles ont gagné. L'organisation, la mobilisation et la solidarité ont triomphé. Mais je ne vous ai donné que des grandes lignes de leur combat. Et pour revivre en intégralité la grève, le collectif vous propose un récit conté le 3 décembre prochain à Rennes. Venez assister au récit joyeux, superbement interprété par deux camarades, avec des animations, des chants et des slogans. Et le 4 janvier, la ville de Douarnenez organise une manifestation pour célébrer le centenaire de la victoire des Pensardines. Et notre collectif a prévu de s'y rendre et on vous y attend.
On termine en résumant tous les prochains rendez-vous féministes. Il y a plein de dates à noter, alors préparez-vous pour l'agenda de nos luttes. Cette semaine, le 20 novembre, il y a eu le TIDOR, qui est la journée du souvenir trans, et aussi le même jour, la journée internationale du droit des enfants. Ensuite, on se retrouve dès ce week-end, le samedi 23 novembre, à 14h, place Charles de Gaulle, pour une grosse manif contre les violences sexistes et sexuelles. On continue le lundi 25 novembre, qui est la journée internationale de lutte contre les VSS, pour un village féministe à partir de 14h et une marche en flambeau à 18h à République. On vous en a parlé tout à l'heure, on propose aussi un récit conté des Pensardines le 3 décembre prochain. Le 18 décembre, on descendra dans la rue pour la journée internationale pour le droit des personnes exilées et on commencera la nouvelle année le 4 janvier à Douarnenez pour une marche en l'honneur des Pensardines. Et enfin, le 25 janvier, avec la coordination féministe, qui, je le rappelle, est un regroupement de collectifs féministes dans toute la France, on appelle à la grève féministe pour battre l'extrême droite. Toutes ces dates et lieux de chaque événement seront communiqués sur nos réseaux, donc n'hésitez pas à nous retrouver sur Facebook, Instagram, Expansive et Démosphère. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt dans nos luttes.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. a cada minuto de cada semana. Nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza
el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria.
Soy la niña que subiste por la fuerza.
Soy la madre que ahora llora por sus muertas.
Y soy esta que te hará pagar las cuentas.
Justicia,
justicia, justicia.
Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza
el feminicida.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Y retiemble en sus centros la tierra al sonar.
Canción sin miedo par Bibir Quintana, que vous venez d'entendre sur Canal B. C'était à l'assaut en compagnie cette fois de Nous Toutes 35, une émission à retrouver en podcast sur canalb.fr. Le prochain rendez-vous, ce sera le vendredi 27 décembre à partir de 13h. Et c'est Cœur Résistant qui sera cette fois en studio pour nous parler de leur lutte quotidienne contre la précarité. En attendant, restez branchés toujours sur les ondes de Canal B.